Radio Okapi.
Présenté par Grâce Amzatsi, tout de suite le sommaire. Montée de l'insécurité dans la ville de Goma, Nord Kivu. Une jeune femme enceinte de 6 mois de jumeaux, tuée ce vendredi soir par balle lors d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans le quartier Munigi. La société civile hausse le ton et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Au Kassai Oriental, l'Office de voirie et drainage OVD dénonce des cas de vol à répétition des matériaux destinés à la réhabilitation et à la modernisation des routes dans différents chantiers de la ville de Mbujimayi. L'invité du jour est le directeur provincial Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métier. Bertin Kalenda Salongo s'exprime sur l'état de ce secteur, mais aussi de son importance dans une région comme celle des Beni, Butembo et Lubero. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu pour commencer. Une jeune femme enceinte de 6 mois de jumeaux a été tuée par balle lors d'une attaque perpétrée dans la soirée d'hier par des hommes armés non identifiés dans le quartier de Munigi, à proximité du bureau de Mwami. Nous sommes dans la ville de Goma. Selon sa famille, même ses deux bébés n'ont pas pu être sauvés. La société civile demande aux autorités de prendre les mesures concrètes et rapides pour rétablir l'ordre dans la ville. Les circonstances de la mort de cette jeune femme, avec vous, Rosalie Zawadi.
Selon les frères de la victime, Tatiana, âgée d'un peu plus de 25 ans, venait de sortir de chez elle en début de soirée pour acheter des films afin de se détendre. Elle a été touchée par des balles tirées par des hommes armés qui voulaient piller non seulement l'édition où elle s'est trouvée, mais aussi les boutiques voisines. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle n'a malheureusement pas pu survivre à ses blessures. Les médecins ont tenté de sauver les jumeaux qu'elle portait, deux garçons. Mais sans succès. Face à cette nouvelle tragédie, la société civile de Goma a exprimé son indignation et son profond chagrin. Il est injuste que la population paisible continue à perdre la vie gratuitement de cette manière dans la ville, a dit Marion Gaveau, son président. Il exhorte les autorités en charge de la sécurité à prendre des mesures concrètes et rapides pour mettre fin à ces cycles de violence. Selon les statistiques des organisations de défense des droits humains, ces derniers jours, au moins deux personnes sont abattues chaque jour dans la ville, sans compter les cas de cambriolage et les nuits tourmentées par des tirs nourris. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et face à cette montée de l'insécurité dans la ville de Goma, la société civile, coordination communale de Karisimbi, réagit. Elle propose que soit réactivée la mesure de l'autorité provinciale interdisant l'accès au site des déplacés aux hommes en armes. Également assurer la mobilité des patrouilleurs par des moyens de locomotion adéquats. On écoute Christian Kalamo, président de la société civile de Karisimbi.
Il y a eu crépitement de balles dans beaucoup de quartiers de la commune de Karisimbi. D'où il y a des morts au niveau du quartier Mugunga, au niveau du quartier Kasika, au niveau du quartier Mabanga Sud, d'où un jeune a perdu la vie, et au niveau du quartier Mabanga Nord, où une personne a été touchée par balle. Tout ça, ça montre une insécurité très grandissante dans la commune de Karisimbi. Il y a prolifération des hommes en armes, hors service, mais qui circulent librement dans la ville de Goma. Et même des bandits qui se font maintenant passer à nos FADC. Des bandits qui se font passer à nos PNC. Des bandits qui se font passer à nos Wazalendo. C'est parce que ils ont compris qu'il n'y a pas contrôle vraiment de ces militaires en divagation dans notre commune de Karisimbi. Ce qui nous pousse à faire appel à l'autorité urbaine pour faire respecter la note que le gouverneur avait signée pour interdire la circulation des hommes armés hors service de la ville de Goma. Mais aussi pour demander à l'autorité provinciale pour doter la commune de Karisimbi de beaucoup de jeeps pour que l'intervention puisse chaque fois venir à temps réel quand on en a besoin.
Et dans la ville de Beni, toujours au Nord Kivu, une dizaine d'acteurs humanitaires de la société civile ainsi que des représentants des jeunes, des femmes, mouvements et groupes de pression de Beni, Butembo et Lubero ont échangé hier vendredi sur la problématique d'entrave au travail des humanitaires dans l'est du pays. C'était au cours d'une rencontre organisée par l'ONG Jeunes Ambassadeurs de la Paix et du Développement de la RDC, JAPD-RDC. Objectif, réfléchir sur les pistes des solutions pouvant permettre aux humanitaires de mieux venir en aide aux milliers de déplacés dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Le coordonnateur de JAPD-RDC appelle les participants à sensibiliser davantage les populations locales à mieux collaborer avec les humanitaires. Disciple Kassere Kamakasi explique au micro de Guylaine Kassassia.
Comme vous pouvez le constater, à partir de Lubero, Kanyabayonga, Kirumba Kayine, partout là-bas, et même dans les groupements, Buito Chefferie, et dans les groupements Kanyabonga, Chiffrerie de Buito, il y a beaucoup de déplacés et ça nécessite de l'aide humanitaire. Mais ce qui nous met à difficulté, ou ce que nous avons constaté, est de trouver que parmi la population, il y en a ceux qui passent, que les humanitaires, ils sont des ennemis. Au moment où ils amènent de l'aide aux vulnérables et aux déplacés, avec ça, avec cette attitude, ça risquerait maintenant d'affecter même d'autres zones si rien ne se fait, mais aussi de créer ce qu'on appelle crise humanitaire. C'est dans ce sens qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut réfléchir avec des leaders communautaires, d'autres partenaires humanitaires, afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre nos communautés que les humanitaires, ils viennent, ils amènent de l'aide et ils sont nés dans des conflits, ils n'ont pas une part de responsabilité dans des conflits, et pour faire comprendre aussi nos communautés que la population a besoin de l'aide pour le moment.
Par ailleurs, la coordination nationale du panel des experts de la société civile dit constater avec regret la persistance des cas de détention extrajudiciaire par les services des renseignements, ce qui du reste constitue, selon elle, non seulement des violations graves des droits de l'homme, mais aussi et surtout des pratiques contraires à la constitution de notre pays, la RDC. Dans un communiqué publié hier, cette structure citoyenne cite le cas de Jonas Kasimba Mumbere, président de l'Alliance des Congolais pour la défense des intérêts du peuple, ACDIP en sigle, parti politique, membre de l'Union Sacrée et opérateur économique en RDC. Selon Dieudonné Mushagalusa, coordonnateur du panel des experts de la société civile, l'infortuné a été enlevé dans sa résidence de Macampagne à Kinshasa depuis le samedi 11 mai 2024 et détenu jusqu'à présent dans les geôles de l'ANR. Cela sans aucun contact avec sa famille, ses avocats, moins encore ses proches, et ce, malgré les cris de détresse de son épouse sur son état de santé précaire. On écoute Dieudonné Mushagalusa.
La coordination du panel des experts de la société civile est très préoccupée par cette détention extrajudiciaire, d'autant plus que l'infortuné est sous régime alimentaire et médical, nécessitant une prise en charge régulière et appropriée. Gardien des valeurs citoyennes, le panel des experts de la société civile rappelle que la Constitution garantit la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit établie par des juridictions compétentes. Il est donc indiqué que s'il y a des accusations apportées contre M. Jonas Kasimba Mumbere, la loi et les instruments juridiques internationaux exige à ce qu'il soit mis à la disposition de la justice. Au cas contraire, une certaine opinion risquerait de croire qu'il s'agit d'une pratique consistant à rançonner les hommes d'affaires. Il va sans dire que ceci ternit l'image de la République et par ricochet l'état des droits prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Pendant ce temps, l'artiste et musicien Koffi Olomide est attendu au parquet général près la Cour de cassation le lundi 15 juillet pour des faits qui lui seront communiqués sur place. C'est ce qu'indique l'invitation lui adressée hier vendredi. Cette convocation intervient à la suite de son passage à l'émission Le Panier The Morning Show sur la RTNC le 6 juillet dernier, où il a tenu des propos controversés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces déclarations jugées dénigrantes et démobilisatrices pour les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC lui ont valu une première convocation par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication le 12 juillet, au cours de laquelle il a dû présenter ses moyens de défense. Lors de l'émission, Koffi Olomide avait notamment déclaré, je cite, « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut. » Fin de citation. Direction la province du Kassai-Oriental pour parler des vols récurrents des matériaux destinés à la réhabilitation et à la modernisation des routes dans les différents chantiers de la ville de Mbujimayi. L'Office de voirie et drainage OVD dénonce ces cas de vols à répétition. Au cours de la visite des différents chantiers effectuée le week-end dernier, le gouverneur des provinces a demandé à la population d'être vigilante et de dénoncer tout cas de vol. Des explications à Mbujimayi avec Esther Ndalafina.
D'après ingénieur Jean-Félix Moulumba de l'Office de voirie et drainage OVD, les matériaux destinés à la réhabilitation et à la modernisation de la voirie urbaine les plus volés sont les sacs de ciment, les moellons, les planches, les graviers et le sable. La même source précise que le vol est décrié dans tous les chantiers, mais le dernier cas en date est celui qui s'est produit il y a 2 semaines sur l'avenue Monseigneur Kongolo qui sépare la commune de Bipemba à celle de Diolo. À cet endroit, c'est plus l'entreprise Safremex qui effectue les travaux de réhabilitation et modernisation des routes en Bougemaï. Quelques voleurs ont même été surpris en pleine opération par la population. Ces vols à répétition ont été rapportés au gouverneur de province. Jean-Paul Mwebwe demande à la population d'être vigilante et d'identifier les voleurs de ces matériaux de construction. Signalons que d'autres cas de vol de lampadaires solaires sont également constatés sur certaines artères de la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle qui nous vient de l'Ituri, les communautés Bira et Emma établies sur les deux rives de la rivière Chari entre les villages Kangakolo et Irumu Centre peuvent de nouveau se fréquenter. C'est grâce à deux barques motorisées qui ont été mises en service jeudi par le gouvernement provincial. Selon l'administrateur du territoire d'Irumu qui a présidé la cérémonie de mise en service de ces engins, l'objectif est de renforcer la cohésion sociale et les échanges économiques entre les deux entités. Martial Kizabiamongo.
Cela faisait plusieurs années, voire décennies, que les populations des groupements Bassoumo et Mayalibo ne se fréquentaient plus en absence d'un pont jeté sur la rivière Chari qui sépare les deux entités du territoire d'Irumu. Assez préoccupant pour que le gouvernement provincial décide de mettre fin à cette situation quelque peu inédite. Jeudi dernier, des barques motorisées ont été mises en service sur la rivière Chari. Pour les autorités provinciales, il s'agit non seulement de renforcer les rapprochements social entre les peuples Bira et Emma, mais aussi de faciliter la circulation des produits agricoles de première nécessité de part et d'autre de deux communautés. Le colonel Siro Simba, administrateur du territoire d'Irumu, explique.
Ces deux barques vous serviront pour traverser d'Irumu centre vers Kangokolo, voire même Bassounou. C'est aussi pour renforcer la cohabitation pacifique.
De leur côté, les autorités coutumières de deux groupements salissent et gestes du gouvernement provincial. Elles appellent la population à vivre en paix et à privilégier les vivre ensemble. La société civile locale appelle les autorités militaires à consolider ces climats de paix dans cette région jadis victime des attaques de groupes armés. Bounia, Martial Kizapiabongo, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa pour signaler la clôture hier de la campagne des opérations chirurgicales gratuites chez les enfants à l'hôpital de Kalembelembe. Du 13 juin au 13 juillet, soit pendant un mois, une centaine d'enfants souffrant de diverses malformations ont été opérés, rendus possibles grâce à la collaboration de la Fondation Vilmar. Cette campagne avait pour objectif d'assurer une couverture de santé plus large au bénéfice de plusieurs enfants malades. Reportage de Miradim Fouengi et Arcel Kadjuro.
Quelques parents avec leurs enfants sont assis dans la cour de l'hôpital. À tour de rôle, ils répondent à l'appel du docteur pour le pansement des enfants. Pendant ce temps, des enfants opérés des malformations anorectales suivent des soins post-opératoires à l'hôpital. Visiblement contents, les parents témoignent le bienfait de cette campagne. Suzanne explique ce qu'elle a vécu avec son fils.
Nous sommes venus pour l'intervention de mon enfant qui n'avait pas d'anus. Ils nous ont bien reçus. Nous remercions la Fondation Vidmart pour ses soutiens. Nous n'avions pas de moyens.
Docteur Manuela Mukindi, pédiatre, explique le déroulement de cette campagne ainsi que le nombre d'enfants pris en charge.
Comme je vous l'avais dit, la cible au début était de 50 enfants. Il y avait un besoin urgent et massif. Donc aujourd'hui, nous pouvons compter 100 enfants qui ont bénéficié d'une opération de chirurgie gratuite. On a eu plusieurs maladies, entre autres les enfants avec malformation du tube digestif. Les enfants avec maladie de Hishpom, c'est-à-dire un mégacolon congénital. Les enfants avec des grosses hernies. Le besoin est très important sur l'étendue de la République. On a vu des enfants venant des autres provinces.
La Fondation Vidmart ainsi que l'hôpital de Kalembelembe comptent organiser à l'avenir une autre campagne pour venir en aide à plusieurs enfants malades.
Actualité internationale.
L'organisme de surveillance de la police du Kenya déclare qu'il enquêtait pour savoir si la police était impliquée dans la découverte macabre des corps mutilés jetés dans une décharge de Nairobi, rapporte l'AFP. L'autorité indépendante des contrôles de la police enquête également sur les allégations d'enlèvement et d'arrestation illégale des manifestants portés disparus à la suite des manifestations antigouvernementales généralisées.
L'invité.
Bertin Kalenda Salongo est notre invité. Il est le directeur provincial Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métier. Il parle de l'état de ce secteur, souvent mal perçu par certains selon lui, mais aussi de son importance dans une région comme celle de Beni, Butembo et Lubero. Il s'entretient ici avec Guylaine Kassassia.
Berthe Kalenda Salongo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Qu'attend-on par formation professionnelle et quelle est son importance?
La formation professionnelle est juste un secteur qui se focalise sur l'apprentissage de métier. Et cet apprentissage de métier revêt un caractère important dans le secteur de la vie nationale parce qu'il nous permet à la fois de former des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emplois.
Oui, alors, quel état des lieux faites-vous de ces secteurs dans la région de Beni, Butembo et Lubero?
Et la formation professionnelle dans la région de Beni, Lubero et Butembo a commencé effectivement avec beaucoup de difficultés, mais nous sommes en train de nous y mettre pour essayer de mettre chaque chose à sa place. La première grande mission était de vouloir installer d'abord le service en question. Nous avons connu assez de difficultés avec d'autres services frères au sein de l'administration publique parce que, comme vous le savez, la formation professionnelle était organisée d'une manière disparate. Certains des centres dépendaient, je ne sais pas, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Culture et des Arts. Mais avec la réforme initiée par la plus haute autorité du pays, il a plié à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage, de pouvoir créer un ministère à part entière pour le secteur de la formation professionnelle. Et pour le moment, au niveau de la région de Butembo, Beni, Lubero, nous pouvons nous frotter les mains parce qu'au moins nous avons déjà des structures que nous avons déjà créées qui sont capables d'assurer une bonne formation à notre jeunesse. Donc nous avons déjà des centres de formation professionnelle qui sont agréés par l'État congolais. Et bientôt, nous sommes en processus maintenant parce que avec les établissements publics, il faudra que les formateurs, les directeurs de ces centres soient pris en charge par le Trésor public. Et pour votre information, nous dirons que le premier lot de centres de formation professionnelle est arrivé à Butembo, déjà mécanisé par l'État congolais. Il ne reste maintenant que l'argent soit disponible pour que ces gens puissent bénéficier déjà de l'argent. Donc sur le plan organisationnel, nous espérons que dans les jours qui suivent, la formation professionnelle va se vêtir de sa plus belle robe.
Plusieurs personnes, en majorité des jeunes désœuvrés, bénéficient souvent de formations professionnelles dans plusieurs domaines de la région. Quel suivi faites-vous de ces formations et de personnes formées?
Pour ceux-là qui sont formés dans les différents centres de formation professionnelle, ils reçoivent vraiment une formation de qualité et au terme de leur formation, ils sont toujours certifiés. Le gouvernement congolais s'est résolument engagé pour devoir créer un guichet unique de formation professionnelle. Et nous essayons, tant bien que mal, de mettre en place, comme nous avons un service qui s'occupe de la réinsertion, ce service essaie de suivre de plus près ces jeunes gens qui ont été formés.
Peut-être pour finir, aujourd'hui, quelle valeur donnez-vous à un certificat de fin de formation professionnelle? On sait que pour plusieurs parents et même certains jeunes, la formation professionnelle passe souvent pour de personnes qui n'ont pas fait de longues études pour devenir ingénieur, journaliste, médecin, etc. Pourquoi la formation professionnelle a-t-elle une mauvaise presse auprès de la population?
Effectivement, si la formation professionnelle a une mauvaise interprétation, pourquoi? Parce que vous savez, le système éducatif congolais a mis un accent particulier sur ce que nous appelons l'enseignement théorique, l'enseignement général pour former des gradués, des licenciés, des docteurs, des médecins, ainsi de suite. Mais le fort malheureusement est de constater que, au terme de leur cursus universitaire, ils sont toujours voués au chômage. Contrairement à la formation professionnelle que nous attendons de ceux-là que nous venons de former à devenir immédiatement des créateurs d'emplois. Et en plus de cela, le certificat dont vous faites allusion, madame, le certificat offert par le ministère de la formation professionnelle, je vous dirais que ce certificat est devenu internationalisé. Même si vous allez à l'extérieur, l'UNESCO s'est engagé à vouloir valoriser ce même certificat au même titre que nos diplômes d'État que nous délivrons en République démocratique du Congo.
Bertin Kalinda Salongo, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Notre invité, le directeur provincial Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métier, répondait aux questions de Guylaine Kassassia. 16h20 à Beni. C'est par ici que s'achève ce radio-journal, coordonné par Jacques-Yves Moulima et supervisé par Alain Rung. Polydor Basunga a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci de nous avoir écoutés.